Alors, ce matin, on a regardé tout à l'heure un petit peu l'entrée de l'école du dimanche, la fête foraine. Et si vous vous rappelez, le thème de l'école du dimanche, c'est, on peut le mettre à l'arrière peut-être, en arrière-plan, le thème, c'est « J'ai décidé de suivre Jésus ». Alors, les enfants qui sont partis dans leur classe, là, ils vont être surpris un matin, parce que en ouvrant la porte en bas au sol, là, ils vont voir des petits pots qui sont collés sur le plancher. Plein de petits pots qui s'en vont jusqu'à leur porte de classe. Puis là, sur leur porte de classe, c'est marqué « J'ai décidé de suivre Jésus ». À chacune des portes de classe, il y a ces petits pots-là. Donc, j'ai décidé de marcher, si on veut, dans les pas de Jésus ou de suivre Jésus. Alors, ce matin, j'ai choisi un texte. Dans le fond, c'est une entrevue qu'il y a eu entre un jeune homme et Jésus. Une entrevue qui s'est réellement passée. C'est pas une parabole, c'est vraiment un fait vécu. Un jeune homme qui a vraiment rencontré, il y a 2013 ans, qui a rencontré Jésus et puis qui a eu un échange avec lui. Il y avait une question à lui poser qu'il avait dans la tête, qu'il avait depuis plusieurs jours, j'imagine, qu'il l'inquiétait. Et j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10. On va regarder à partir du verset 13. Et l'entrevue réelle qui nous est fait mention ici, elle se retrouve également dans deux autres évangiles, l'Évangile de Matthieu, au chapitre 19, et l'Évangile de Luc, au chapitre 18. Mais aujourd'hui, on va regarder plus l'Évangile de Marc. Je peux à l'occasion aller chercher de l'information qui a été dit seulement dans Matthieu ou seulement dans Luc. Et avant d'aller plus loin, prions. Seigneur Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le créateur du ciel et de la terre, toi qui m'as créé, toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Seigneur Jésus, je veux t'adorer. Je veux reconnaître que tu es Dieu. Je veux reconnaître que tu es vivant, que tu es ici présent dans cette assemblée. Je veux reconnaître que tu vis en moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, sois avec nous ce matin. Sois avec moi dans la façon d'apporter ta parole. Fais que tu puisses toi-même communiquer à tes enfants le message que tu veux vraiment leur communiquer. Je te demande, Seigneur Jésus, d'être avec chacun des personnes dans l'Église ici ce matin. Que les personnes aient remis leur vie à toi ou qu'ils soient en cheminement de le faire. Seigneur Jésus, ma prière, c'est que je te demande d'être à côté d'eux et de vraiment permettre d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir le cœur à tous tes enfants, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent vraiment comprendre ton message, comprendre qu'est-ce que tu veux pour eux dans leur vie. Seigneur Jésus, fais-nous du bien ce matin. Touche nos cœurs. Et travaille nos cœurs aussi, Seigneur Jésus. Fais-nous ressortir des choses, Seigneur Jésus, que tu vois, Seigneur Jésus, et que tu veux guérir, Seigneur Jésus, parce que tu es tout-puissant. Rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, l'Évangile de Marc, au chapitre 10, au verset 13. Je commence au verset 13 pour un peu vous donner un peu l'envergure de la journée qui se passe. Peut-être qu'on est dans la matinée, on est peut-être au début de la journée. Pas vraiment au début, parce que déjà, dans les versets précédents un peu, on voit Jésus qui s'entretient et puis qui discute de mariage et de divorce, des choses comme ça. Alors, peut-être qu'on est un petit peu au début de l'après-midi. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche, afin que Jésus touche ses petits-enfants. Les disciples reprirent ceux qui les amenaient. probablement les parents qui amenaient les petits-enfants vers Jésus. Jésus, voyant cela, fut indigné. Il était pas d'accord avec la réaction des disciples. Il leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Puis Jésus prit les petits-enfants dans ses bras. Il les bénit et il leur imposa les mains. Qu'est-ce qui est important à observer ici? C'est l'attitude. L'attitude où il y a comme une genre de clé. C'est quelque chose qui nous est utile pour comprendre comment on peut entrer dans la vie éternelle, comment on peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est quoi la clé, le secret qu'il faut absolument avoir? Mais ça se passe, ici Jésus nous dit, « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, bien c'est grave, s'il ne fait pas comme un petit enfant, s'il n'y a pas l'attitude d'un petit enfant, ben, il sera pas capable d'y entrer. Il y a pas la clé, il y a pas l'attitude qu'il faut pour avoir la vie éternelle, pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est question d'attitude ici. Il n'est pas question d'être semblable à un petit enfant au niveau moral. Parce que souvent, il y a des gens qui pensent qu'un petit enfant, ici, un petit enfant qu'on parle, c'est comme les tout petites classes qu'on a vues tout à l'heure, là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est ça un tout petit enfant que tu peux prendre, lever dans tes bras, mettre sur tes genoux, un tout petit enfant. Eh bien, il y en a qui pensent qu'un tout petit enfant, c'est moralement correct, c'est bon un petit enfant, ça n'a pas de défaut. Mais ceux qui en ont des petits enfants, peut-être ils pourraient lever la main et dire, je suis pas d'accord, moi j'en vois. Joël, es-tu prêt à confirmer ça, t'en as quelques-uns? Donc, c'est pas tous des petits trésors, des petits anges qui... il y a des petits côtés qu'il faut corriger chez l'enfant. Donc, quand Jésus nous dit qu'il faut ressembler aux petits-enfants, c'est pas ressembler à leur côté moral ou au fait qu'ils sont bons. C'est plus ressembler aux côtés qui sont un petit peu innocents ou qui sont faciles, sont ouverts dans leur esprit. Le mot, le vrai mot, dans le fond, c'est comme ils sont crédules. Dans le fond, tu peux leur dire, un petit enfant de 2-3 ans, tu peux lui raconter là n'importe quelle histoire abracadabrante, là, puis il va la croire comme si c'était vraiment vrai. Ah, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Il va te croire. Le petit enfant, il va te croire. Il te remet pas en question. Quand il va vieillir un petit peu, là, il va peut-être foncer les yeux en voulant dire, t'es en train de m'en passer une, là, tu sais, il va essayer, quand il va être plus vieux un peu, il va te remettre en question. Il va dire, mon oncle, wow, mon oncle. Mais le tout petit enfant, il te remettra pas en question. Il va vraiment croire intégralement ce que tu vas lui dire. Mais c'est un peu ça, l'esprit, c'est que Dieu veut qu'on aille. L'attitude réceptive de croire, sans poser un million de questions. Il veut vraiment qu'on croie comme un petit enfant. C'est la clé, une clé qui est requise pour avoir la bonne attitude, pour être capable de recevoir le royaume de Dieu. Maintenant, un petit peu après cet événement-là, Jésus, au verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, donc il se déplace, il se met en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux, lui pose une question. Mais là, on sait que ce qu'on va parler ce matin, on va parler du jeune homme riche. Puis, vous connaissez toute l'histoire du jeune homme riche. Ça me surprendrait qu'il y ait quelqu'un qui dise, j'ai jamais entendu parler du jeune homme riche dans les évangiles. On connaît son histoire, on connaît même comment ça va finir. Mais ce matin, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps pour regarder peut-être des choses qui se cachent un petit peu derrière tout ça. Donc, c'est un jeune homme riche. On dit un jeune homme. Ici, dans le texte de Marc, vous ne retrouverez pas le mot « jeune ». On le retrouve plus dans Matthieu, qui nous donne une information supplémentaire pour nous dire qu'il était jeune. Dans Luc, on va retrouver que ce jeune homme-là, en plus d'être jeune, Mais une chose qu'on sait déjà, puis on va le voir dans le texte aussi, c'est qu'il était riche, et même assez riche, parce qu'il avait de grands biens. Et ce, donc, on est en face d'un jeune homme qui est assez riche, et puis, il y a un autre facteur qui nous est mentionné dans Luc, c'est qu'il était chef. Chef de quoi exactement? Chef de au niveau, probablement, au niveau de la synagogue. Est-ce qu'il était le premier chef? Probablement pas, parce qu'il était quand même jeune. Ici, jeune, s'il était chef et jeune en même temps, probablement que jeune correspond peut-être au début de la trentaine. Parce que chez les Juifs, avant d'avoir un poste d'autorité, il fallait que tu aies une certaine crédibilité, et la crédibilité, elle pouvait pas s'atteindre ben avant 30 ans. 30 ans, c'était comme l'âge où tu étais reconnu comme crédible, où tu pouvais accéder à des postes de direction ou des postes en charge d'autorité. Et probablement que ce jeune homme-là était chef quelque part dans la hiérarchie de la synagogue, et probablement qu'il était à une position d'autorité. Donc, c'est un jeune homme qui était respectable. Et on va le voir un petit peu plus loin. En plus de tout ça, il y avait une moralité élevée, même très élevée. Donc, t'imagines un jeune homme riche, un chef dans la hiérarchie des juifs, et là, il voit Jésus. Et là, il va faire quelque chose quand il voit Jésus. Puis pour nous bien nous mettre dans le contexte, on est au chapitre 10. Au chapitre 11 de Marc, Jésus, quand il se déplace, on dit qu'il était en chemin, il se déplace vers où? Il part un peu de Capernaum, puis il se déplace dans la Judée, il s'en va à Jérusalem. Il va se rendre à Jéricho, puis il va aller plus un peu en descendant jusqu'à Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est là qu'il va entrer à Jérusalem, et ça va être la dernière fois qu'il va entrer à Jérusalem de son ministère terrestre, et une semaine après, il va être crucifié. Donc, on est quelques semaines avant que Jésus termine son ministère sur terre. Quelques semaines avant. Donc, la réputation de Jésus était connue. Le jeune homme qui était là, il savait qui était Jésus, il avait entendu parler de lui, il savait que c'était soit un... Il y avait des gens qui pensaient que Jésus était vraiment Dieu, le Messie. Quelques personnes pensaient ça. C'était plus l'exception. D'autres disaient, c'est un grand prophète, il fait des miracles. D'autres disaient, oui, c'est un genre de rabbin ou quelque chose. Puis d'autres disaient, ouais, mais non. Ils disaient, il égare la foule. D'autres disaient même qu'il est possédé d'un démon. Donc, tu avais toutes les possibilités. Mais personne n'était indifférent à Jésus. Tout le monde avait un peu son opinion par rapport à Jésus. Mais personne ne pouvait être, n'était indifférent. Jésus, c'était un personnage qui était public. Quand il se déplaçait, il y avait toujours des personnes autour de lui qui l'approchaient pour être guéri ou pour qui avaient des démons qui voulaient être guéris. Jésus ne marchait pratiquement jamais seul. Donc, là, il venait d'avoir un groupe d'enfants autour de lui, de parents qui amenaient des enfants. Et puis là, Jésus se déplace pour aller en direction de... Jérusalem. Et là, le jeune homme qui est là voit Jésus, et là, il fait quelque chose, il accourt vers Jésus, il se dépêche, je ne vais pas le manquer. Puis là, il se met à genoux devant Jésus. Puis là, il lui dit, « Bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? » Toute une question. En fait, c'est la question. Une question que beaucoup de jeunes à un moment donné, se pose dans la vie. Et on dirait qu'il y a comme une fenêtre ouverte, là, entre l'âge de 15 ans et peut-être 30 ans, je sais pas, là. Quand t'es plus jeune un peu, tu sais, il y a une période où qu'on appelle ça les questions fondamentales de la vie. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi est-ce que je vis? Est-ce que de la vie sur d'autres planètes? Tu te poses plein de questions. Et une des questions fondamentales, c'est celle de la vie éternelle. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Puis, si après la mort, je crois qu'il y a une vie après la mort, qu'est-ce que je peux faire pour avoir cette vie-là après la mort? Beaucoup croient qu'il y a une vie après la mort. Mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle après la mort? Et ce jeune homme-là avait cette question-là. Et puis, il n'était pas gêné parce que il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas fait ce qu'il a fait, d'aller devant tout le monde, lui qui était une personne digne, une certaine renommée, un certain prestige, il y avait une richesse, et là, il va s'agenouiller devant Jésus, puis il lui dit « Bon maître ». Il lui donne comme une genre de flatterie, hein, « Bon maître ». Et là, Jésus lui répond, OK, au verset 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Jésus, ici, il l'accueille, il lui fait une petite correction, légère, pas trop brutale, là, tu sais, il ne le démolit pas en partant, mais il lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Parce que il y a juste Dieu de bon. Il n'y a aucune autre personne qu'on peut qualifier de bon que Dieu. Parce que bon, c'est dans le sens de parfait, sans péché. Il n'y a aucune personne que tu peux dire qui est bon sans aucun péché. Il y a juste une personne qui est bonne, qui est sans aucun péché, parfaitement bon, c'est Dieu. Alors Jésus, dans le fond, si la personne qui était devant lui, le jeune homme, avait reconnu que Jésus est Dieu, Jésus l'aurait pas corrigé. C'est vrai que Jésus est bon maître. Jésus, c'est le bon maître, c'est le bon berger. Mais pourquoi Jésus ne voulait pas entendre ce qualificatif-là venant de la part de ce jeune homme? Parce que justement, ce jeune homme, Jésus voyait dans ce jeune homme que ce jeune homme ne reconnaissait pas que Jésus était Dieu. Donc, il l'a corrigé un petit peu. « Ben regarde, tu t'adresses à moi, mais tu me dis « bon maître ». Mais regarde, là, tu me considères pas comme Dieu, donc pourquoi tu me dis « bon maître » ? Il y a juste Dieu qui est bon. Là, Jésus, dans le fond, il voit ce jeune homme. Il le voit, puis dans le fond, il voit tout chez ce jeune homme. Il voit, quand il le regarde, là, il voit exactement tout ce qui se passe dans ce jeune homme-là. Il voit sa détresse spirituelle, même si ce jeune homme-là ne la voit pas. Lui, Jésus, la voit. Il voit exactement ce qui se passe dans ce jeune homme. Il voit sa condition spirituelle. Il voit tout le pedigree, le CV de ce jeune homme. Il le voit tout au complet, détaillé. Même des choses que le jeune homme ne voit pas, Jésus les voit. Puis il voit son problème, qui est un problème majeur. Puis le jeune homme ne le voit pas. Alors Jésus commence à lui dire, « Pourquoi m'appelles-tu bon maître? » Il y a juste Dieu qui est bon. Puis il va entrer à un second niveau. Il va traiter d'une autre chose. Il va lui parler au verset 19. Il dit, « Tu connais les commandements? » Alors là, il lui dit, là, il lui parle des commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu. On sait que on a les 4 premiers, comme il y a comme les 2 tables de la loi, comme Moïse a été cherché auprès de Dieu sur le mont Sinaï, c'est ça? Sinaï. Les 2 tables de la loi. La première table de la loi, c'était les 4 commandements qui parlaient de la relation entre l'homme et Dieu. Comme ça commence par, tu sais, Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ici, tu as les autres commandements qui suivent. Puis dans la deuxième table, tu as les 6 autres commandements qui ont rapport à la relation de l'homme avec les autres hommes, que Jésus a résumé en disant, les 6, tu peux les résumer en disant, aime ton prochain comme toi-même. Et là, Jésus lui énumère justement ces 6 commandements-là. Il lui dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne et honore ton père et ta mère. Et le jeune homme, puis c'est quand même gros qu'est-ce qu'il dit, le jeune homme répond, « Maître! » Là, on dirait que le jeune homme, il a compris la première leçon numéro 1, qui était de ne pas dire « bon maître », donc il a dit « Maître! J'ai observé toutes ces choses » depuis ma jeunesse, Donc, l'auto-évaluation du jeune homme, c'était 100%. Non, il y avait 100%. À ses yeux, à lui, depuis son jeune âge. Et ici, jeune âge, dans le milieu juif, tu peux référer peut-être à la fête du bar Mitzvah. C'est ça qu'on dit, Mitzvah. C'est une fête juive que les jeunes de à peu près 12, 13 ans, à un moment donné, ils font comme, ils reconnaissent qu'ils s'engagent publiquement à observer les lois de l'Éternel. Ils s'engagent publiquement. Donc, c'est un engagement. Là, ils se rendent comme redevables devant Dieu de leurs actes. S'ils ont péché, là, ils se rendent pleinement responsables de leur faute devant Dieu. Et donc, le jeune homme, depuis cet âge-là à peu près, depuis sa jeunesse, 13 ans peut-être, il dit qu'il a observé tous les commandements qui ont rapport à la relation entre lui et les autres hommes. Hey, c'est quelque chose. Tu as observé tous les commandements qui fait que t'aimes, qui se résume en hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était tout un jeune homme, je vais te dire. Tout un jeune homme. Mais je pense personnellement que ce jeune homme était sincère quand il a dit ça. Je pense qu'il était sincère. Je pense que dans sa tête à lui, il avait observé tous les commandements. Puis si c'était ça la règle pour aller au ciel, selon lui, il irait au ciel. Mais il y avait quand même un petit doute parce que il a approché Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais, dans sa question là, sa question c'était bon maître, que dois-je faire? Puis là aussi, vous avez dans au verset 17, vous avez aussi dans Matthieu 19, il rajoute un petit mot de plus dans la question, peut-être pour préciser quelque chose. Il dit que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Si on retrouve ça dans Matthieu. Que dois-je faire de bon? Donc, dans la tête du jeune homme, pour avoir la vie éternelle, c'était des choses à faire. Là, j'ai tout suivi les commandements de la relation d'un homme envers les autres hommes. J'ai tout suivi ça. J'ai aimé mon prochain comme moi-même. Mais qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi une petite affaire à faire. Je vais le faire. Moi, je veux avoir la vie éternelle. Il manque peut-être juste une petite affaire, un petit raffinement là, que j'ai peut-être pas vu. Parce que lui considérait Jésus quand même, vu qu'il s'est mis à genoux devant lui, il considérait Jésus comme plus grand que lui. Donc, il considérait comme une personne qui avait une certaine autorité spirituelle. Donc, il manquait une petite affaire de plus. Et il cherchait à savoir qu'est-ce qui me manque, la petite affaire que je peux faire de plus, je vais le faire. J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Ça, je trouve que c'est un beau verset. Jésus, l'ayant regardé, il l'a regardé dans les yeux comme je te regarde, puis Jésus l'a aimé. Il l'a aimé. Moi, je me suis dit, comment que l'écrivain, Marc, l'évangéliste, comment il a fait pour écrire ça, Jésus l'aima? Comment il a fait pour savoir quand il a vu la scène, comment il a fait pour savoir que Jésus l'aima? Tu peux voir une personne qui se met à genoux, tu peux l'écrire. Il s'est mis à genoux, je l'écris. Une personne qui regarde, je te regarde dans les yeux. Quelqu'un peut dire, oui, André, il regarde Danny dans les yeux. Mais comment il va faire pour savoir que je l'ai aimé? En te regardant, je l'ai aimé. C'est pas marqué ici, quand je le regarde, c'est marqué M, ça flash. Non, c'est vrai. Comment il a fait? Mais dans le fond, c'est quoi? Comment il a fait? Son regard, moi je pense, son regard, peut-être, moi je pense que les Écritures sont inspirées de Dieu. Puis le Saint-Esprit a inspiré à Marc, à Matthieu et à Luc, les trois évangélistes ont vraiment écrit la même chose. Ils ont vraiment écrit que Jésus a regardé ce jeune homme et il l'a aimé. Moi je crois réellement que Dieu voulait qu'on sache très bien que Jésus a aimé ce jeune homme. Et moi, je pense qu'il l'a aimé, parce que là, il l'a aimé, mais il voyait tout le pedigree de ce jeune homme. Il voyait exactement son péché, même si le jeune homme ne le voyait pas. Moi, je pense que c'est un peu la même chose. Quand Jésus était sur la croix, il était crucifié sur la croix, et il y avait à sa droite et à sa gauche les deux larrons. On dit, nous autres, il y avait un bon larron puis un mauvais larron, mais dans le fond, les deux étaient des larrons, des mauvais larrons, dans le fond. Des larrons, c'était des bandits, des criminels, des meurtriers. C'était pas des bonnes personnes, là. Ils étaient condamnés à mort. Mais un des larrons, s'est tourné vers Jésus, lui a dit, « Ne m'oublie pas quand tu seras dans ton ciel. » Jésus s'est retourné et lui a dit, « Aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le ciel. » Puis l'autre larron, lui, il a continué à insulter Jésus jusqu'à ce qu'on va s'en suivre. Tu sais, il s'en est foutu. Mais la question, est-ce que Jésus a aimé plus le bon larron que le mauvais larron? Jésus, moi je crois que Jésus a aimé les deux de façon identique. Parce que Jésus mourait pour les deux larrons qui étaient là. Exactement de la même façon. Son sacrifice était pour les deux. Et plus que les deux, était pour tout le monde qui allait naître sur terre. Tous les vivants sur terre, les personnes sur terre. Jésus mourait pour chaque personne individuellement. Et Jésus t'aime comme il a aimé le jeune homme, comme il a aimé les deux larrons. Et j'aimerais ce matin que vous fermiez les yeux actuellement. Fermez les yeux actuellement et dans votre imaginaire, imaginez la figure de Jésus qui est devant vous. Et imaginez-le les yeux ouverts. Imaginez-le qu'il vous regarde. Il vous regarde. Imaginez-vous que dans ses yeux, vous voyez cet amour. Vous voyez, vous sentez dans son regard l'amour de Jésus sur toi. Imagine-toi là, tu vois Jésus, les yeux ouverts, et il te regarde. Il te regarde comme tu es. Pas comme tu aimerais, qu'il aimerait que tu sois. Il te voit comme tu es actuellement. Il te voit peut-être que tu as péché cette nuit, peut-être hier, avant-hier, cette semaine, le mois passé. Jésus te voit actuellement comme tu es et dans son regard, il t'aime. Imagine-toi que Jésus te voit et qu'il t'aime. Sens-le, il t'aime, il t'aime. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Même les yeux ouverts, Jésus t'aime encore. Il t'aime encore. Jésus t'aime. Et Jésus lui dit, l'ayant regardé, l'aima. Il lui dit, il te manque une chose. Là, dans Matthieu, on va voir une petite précision. C'est dit, il te manque une chose si tu veux être parfait. Puis là, il lui passe une commande. Tout le monde dit, c'est un genre de test. Il lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu vas avoir un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Puis il y a quelques passages, quelques manuscrits qui indiquent, quand il dit « viens et suis-moi », il y a quelques manuscrits qui complètent en disant « en prenant ta croix ». Mais c'est très minime, le nombre de manuscrits qui ont ça. Donc, Jésus est en train de lui passer une commande. Une commande juste pour lui, pour le jeune homme riche. Ici, on ne parle pas d'une norme. C'est pas normatif. C'est juste pour lui, dans son cas à lui, dans ce jeune homme-là. Jésus lui dit, « Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis ensuite, viens et suis-moi. » Puis en plus, il lui donne une petite ouverture, il lui dit, « Regarde, il lui fait une promesse. Regarde, t'encourager, tu vas avoir un trésor dans le ciel. » Mais la commande qui lui est passée, c'est deux choses. Va, vends tout ce que tu as, distribué aux pauvres. Ça, c'est un premier package. Puis l'autre, c'est viens et suis-moi. Mais c'est l'ensemble des deux. Ça fait partie du même package. Comme deux parties, mais c'est relié ensemble. Il pouvait pas faire juste une, puis juste, par exemple, dire... OK, je vois, je vends mes biens, je les distribue aux pauvres, puis OK, j'ai la vie éternelle. Non, c'est un package, les deux ensemble. Jésus lui demandait ce package-là. C'est gros quand même, c'est très gros. Écoute, le jeune homme aurait pu dire, 50%, tu sais. Je serais prêt à 50%. Non, mais c'est gros, il y avait des... Tu serais prêt, toi, Gilles, à 50%. Non, tu ris, mais... Serais-tu prêt à 50%? Tu vends tout 50%, tu donnes ça à Dieu.
sais que tu serais prêt. Si Jésus était ici, là, ce matin, puis te demandait de vive voix, aucun problème. Je suis sûr que tu dirais aucun problème. Puis s'il demanderait 100%, aucun problème. Je suis convaincu de ça. J'ai-tu raison? Mais je suis sûr, Gilles, que tu ne ferais pas la gaffe du jeune homme, parce que si Jésus t'apparaissait en personne, écoute, là, tu n'as plus aucun doute, c'est Jésus qui te parle. Là, c'est André Sauvageau qui parle. C'est rien qu'André Sauvageau, quand même. Tu sais? Mais si c'est Jésus qui te parle directement, tu peux. Je ne sais pas comment faire, comment quelqu'un pourrait dire non. Je ne le sais pas. C'est Dieu qui te parle, Dieu lui-même qui te parle, qui te dit une chose. Puis c'est faisable, là. Vendre tous tes biens, puis c'est faisable, c'est pas impossible. Il ne te demande pas de choses impossibles. C'est Dieu. J'en conviens. Mais si c'est Jésus qui te le demande, aïe aïe. Si le jeune homme avait su que c'est Jésus, Dieu, qui lui demande ça, il n'aurait pas eu la même réponse. Moi, je suis convaincu qu'il n'aurait pas eu la même réponse. Tu sais, il y a des personnes qui font des bonnes choses dans le monde. Regarde Bill Gates, qui a fait Microsoft et tout ça, là, le président de... C'est la plus grosse fortune au monde. Pas des millions, là, des milliards. La plus grosse fortune au monde. Lui, ce qu'il a décidé de faire, il a décidé de prendre une grosse partie de sa fortune, je ne sais pas le pourcentage qu'il a pris, mais apparemment que c'est énorme, c'est dans les milliards, de l'ordre de 40 milliards. Il a pris ça, il a mis ça dans une fondation, qui appelait la fondation Bill Gates. Puis là, lui, il s'est retiré comme président de Microsoft, puis il s'est en allé président de cette fondation-là, juste pour faire des bonnes œuvres, pour aider des c'est mondial son affaire, il peut aider des peuples, qui sont défavorisés, il va les aider. Puis quand il y en a un qui a vu ça, il y a un gros milliardaire que lui a vu ça, que Bill Gates a fait ça, il a dit, moi je m'engage à injecter 37 milliards en autant que Bill Gates est président. Tant qu'il va être président, j'injecte des grosses sommes de même. C'est incroyable. Mais cet homme-là, Bill Gates, c'est gros qu'est-ce qu'il a fait, là. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que ça lui assure une petite place de plus vers le ciel? Moi, je dis, si il est enfant de Dieu, amen, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne l'est pas, s'il n'a pas mis sa foi, sa confiance en Jésus-Christ, quand même qu'il ferait des dons gros de même, quand même qu'il donnerait toute sa richesse à 100%, puis qu'il la distribuerait aux pauvres, il n'aura pas accès à Dieu pour l'éternité. Il va être privé de la gloire de Dieu pour l'éternité. Et ici, le jeune homme, au verset 22, « Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Vous savez, dans les entrevues, dans les entretiens que Jésus a eus avec des hommes, la plupart du temps, quand que les personnes quittaient Jésus, il était joyeux, il était content, il avait été guéri, il avait un démon, puis là, il n'y en a plus. Il était handicapé, il marchait pas, il était chaud, il était muet. Là, il l'est plus. Les personnes, ils retournaient enchantés, joyeux, le cœur en paix d'avoir rencontré Jésus. Mais ici, le jeune homme, c'est le contraire. Il s'en retourne tout triste, tout désolé, tout affligé. Pourquoi? À cause de la question, à cause de la demande de Jésus, qui était à ses yeux trop grande. Il avait de grands biens. Il n'était pas prêt à se séparer de ces biens-là. Dans le fond, ce que Jésus essaie de faire comprendre au jeune homme, c'est qu'il essaie de lui faire comprendre son état spirituel. Le jeune homme disait qu'il avait accompli la loi de Dieu par rapport aux 6 commandements, les 6 derniers commandements. Il disait qu'il avait 100% comme résultat. Il disait qu'il aimait son prochain comme lui-même. Mais regarde, si tu aimes vraiment ton prochain comme toi-même, c'est quoi le problème à tout prendre ce que tu as et à le donner à ton prochain, à le redistribuer à ton prochain? C'est quoi le problème? Tu dis que tu aimes ton prochain comme toi-même. Il aimait peut-être pas son prochain exactement comme lui-même. Peut-être une petite coche en bas. Oui? Oui, Gilles. Bien, merci beaucoup, Gilles. pour ton honnêteté, ta transparence de nous partager ça. Mais je peux te dire que tu n'es pas le seul dans l'Assemblée qui a fait quelque chose de même. Tu es le seul qui l'a avoué. Mais il y en a plein d'autres qui pourraient lever la main puis qui pourraient dire, « Moi aussi, j'ai... J'ai deux autos, puis... Il y en a qui ravalent. OK. Mais le jeune homme, il a, dans le fond, comme mes filles disent, il a choqué. Au verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Que ça va donc être difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu? » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Comment ça, étonnés? Pourquoi les disciples étaient étonnés de ce que Jésus dit ça? Parce que dans la conception juive, quelqu'un qui avait des richesses, il s'approchait de Dieu, il était plus proche de Dieu. Richesse, quelqu'un qui était dans les richesses, voulait dire automatiquement dans la pensée juive, être béni de Dieu. La personne qui avait de grandes richesses, c'est parce que Dieu l'avait béni grandement. Et plus que tu étais riche, tu étais béni de Dieu, plus que tu pouvais faire le monde, plus que tu pouvais aider les pauvres, plus que tu pouvais faire des sacrifices au temple, tu pouvais acheter un taureau, un ci, un ça, puis les offrir en sacrifice. Donc, dans la pensée juive, tu étais plus proche de la vie éternelle, du royaume de Dieu, si tu étais plus riche. Et ça, les apôtres, les disciples, sont étonnés que Jésus leur dise, « Ça va être difficile, les gars, ça va être difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Là, il était, « Comment ça, difficile, c'est quoi l'affaire? » Puis là, en reprenant, Jésus leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Hey, c'est bien plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Là, ils ne comprenaient vraiment pas. Comment ça? Là, ce que Jésus venait de leur dire, c'est que ce n'est pas rien difficile. Là, il utilise une genre de comparaison, l'histoire du chameau. Bon, il y a différents commentateurs qui ont essayé d'expliquer ça, ce chameau-là. Il y en a qui ont essayé de dire qu'il y a des portes dans les murs de Jérusalem, des grandes portes, puis tout le monde passait par là dans le jour, puis le soir, il fermait les grandes portes, puis il y avait une petite porte. Puis là, c'est quelqu'un qui arrivait avec un chameau, bien, dans la petite porte, il passait pas, il fallait qu'il décharge le chameau, il avait perte de même, il fallait qu'il essaye de rentrer de main dans la petite porte. Et finalement, les historiens, puis ça, ils n'ont jamais trouvé des petites portes à côté des grandes portes. Fait que là, finalement, il y en a qui ont continué des recherches, il y en a qui ont dit que les Perses, les autres, il y avait une paraphrase qui disait, quand ils voulaient parler de quelque chose qui était impossible, ils disaient, c'est aussi possible à un éléphant de passer par le trou d'une aiguille. C'est ça qu'ils disaient. Quand ils disaient ça, ça voulait dire que c'était impossible. Puis là, les Juifs, les Israéliens, eux autres, des éléphants, hein, ça court pas les rues là-bas, fait qu'ils ont remplacé cette expression-là par « c'est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille ». En fait, ce que ça veut dire que c'est impossible. Ce qu'il faut retenir, c'est impossible. Et c'est ce que Jésus dit au verset 26, les disciples furent encore… Ils étaient vraiment étonnés, ils ne comprenaient plus rien. Étonnés, c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette approche-là de Jésus par rapport au moyen d'avoir la vie éternelle. Il n'était pas comme en accord avec Jésus. Puis là, écoutez bien, les disciples, on est juste quelques semaines avant que Jésus soit crucifié. C'est-à-dire que Jésus avait travaillé pendant 3 ans avec les disciples. Puis les disciples, il n'y avait pas une vue claire du royaume de Dieu et de la vie éternelle. C'était encore flou leur affaire. Ils pensaient encore qu'il fallait être riche. Ils étaient surpris que Jésus dise, même si tu es riche, ça ne garantit pas la vie éternelle. Il était même surpris, étonné. Il se demandait, au verset 26, les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Mais qui peut être sauvé? » Tu sais, qui peut être sauvé? Jésus les regarde, il dit, « C'est impossible. C'est impossible aux hommes d'être sauvés. C'est impossible aux hommes d'être sauvés. Mais c'est possible à Dieu. Dieu seul peut sauver. C'est possible à Dieu. Impossible aux hommes, mais seulement à Dieu. Pierre est allumé. Pierre, il dit, nous autres, on a tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus, parce que là, il pensait à Lucie, il voulait avoir le ciel. On a tout quitté, nous autres, puis on t'a suivi. Alors, j'espère qu'on va avoir une bonne place. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais ici, tout ça n'est possible que si quelqu'un a quitté ce qu'on a énuméré. Quitter à cause de quoi? À cause de Jésus, pas à cause d'autres choses. Quelqu'un qui a quitté ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, à cause de Jésus et à cause de l'Évangile. OK, la promesse tient. Mais si ce n'est pas à cause de Jésus ou de l'Évangile, la promesse ne tient pas. Et la promesse, c'est que ces personnes-là vont recevoir au centuple des frères, des sœurs et toute cette belle énumération-là dans la vie qu'on vit aujourd'hui. Il faut le voir un peu globalement. Si j'ai quitté ma maison, est-ce que je vais avoir 100 maisons de plus? Il faut le voir comme spirituellement. Ce que je vais recevoir du Seigneur Jésus, si j'ai quitté mon père, ma mère, à cause de ma foi, à cause de ma position pour l'Évangile, j'ai quitté des choses, mais ça va m'être donné au centuple, dans le sens que c'est des valeurs spirituelles qui me sont données. C'est des bienfaits spirituels qui me sont donnés. C'est la paix. Quel prix on peut mettre pour avoir la paix de l'âme, pour être en paix avec Dieu, pour être certain qu'on a la vie éternelle. Quand tu dis, là, tu passes par une épreuve de maladie ou d'autres choses, quand tu peux dire que moi j'ai la paix, si je meurs, je vais juste quitter mon corps, je vais aller rejoindre le Seigneur Jésus au ciel. J'ai cette certitude-là. Ça vaut quel prix, ça, avoir cette certitude-là? Le jeune homme, c'est ça qu'il recherchait. Il recherchait la vie éternelle. Mais il n'était pas prêt à payer le gros prix. Mais ça vaut, c'est une valeur immense, ça. La paix du cœur. La paix d'être en communion avec Christ. D'être en paix avec le Seigneur Jésus, avec Dieu. D'avoir une conscience pure, une conscience pardonnée. Tu sais, oui, il y a des péchés dans nos vies, mais il y a le pardon qui embarque par-dessus. Ici, on pourrait dire, il y a le petit côté de persécution. Pourquoi il y a une belle énumération de belles choses? Tu sais, tu vas avoir des mères au centuple, des mères, des pères, des ta-ta-ta-ta, puis il arrive au bout avec des persécutions. Ça, c'est une erreur que dans la Bible. Non. Il est vraiment là. Il y a le mot persécution, mais c'est comme vu, dans le fond. C'est sûr qu'une persécution, au début, quand tu regardes ça, ça fait mal. C'est pas vu comme étant une bonne chose, OK? Tu le reçois, tu sais, une persécution, c'est quelque chose. Mais là, ce que ça produit souvent, c'est que ça produit que les gens vont se mettre ensemble, vont se coller les épaules, les coudes ensemble, ils vont s'entraider. Ça va créer une chaleur dans l'Église. Si c'est l'Église qui est persécutée, exemple, ça va produire une chaleur, ça va augmenter leur foi. Ils vont aller dans la prière, ils vont supplier Dieu de les délivrer, puis ça va produire des fruits. Ça va produire, au bout de la ligne, ça va produire une bénédiction. Donc, la persécution peut être vue comme, des fois, négative, mais des fois, Dieu la juge utile. Il n'y a jamais personne qui a prié pour avoir des persécutions. Puis, personne ne va prier pour ça. Moi, le premier. Mais des fois, dans notre vie, ou dans la vie d'une Église, Dieu, le souverain, qui est la tête de l'Église, va décider que des fois, pour une Église, ça prend une petite dose, ça prend quelque chose, ça prend une persécution, qui va aider cette Église-là à reprendre vie. C'est comme un chirurgien qui t'envoie un électrochoc. Tu sautes ça d'eau sur la planche. Mais ça, si je veux en avoir un électrochoc, il y a quelqu'un qui voudrait en avoir un juste pour l'essayer, pour le fun. Non, mais juste pour l'essayer. C'est gratuit. Mais je te dis qu'il n'y a pas grand monde qui voudrait l'essayer. Mais quand tu es sur le bord de mourir, des fois, ça en prend un électrochoc. C'est une grosse persécution, mais ça peut t'amener la vie. Et finalement, le dernier verset, 31, « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » En fait, ce qui nous est dit ici, là, c'est que nous autres, notre évaluation des choses, nos évaluations spirituelles qu'on fait de nous-mêmes et des assemblées, des églises, des frères, tout ça, c'est très biaisé. On est très petits, nous autres, devant Dieu. Pour se faire des scénarios de lui va aller, il va être telle place, lui va être telle place au ciel, lui va être telle place. Les premiers, c'est dit, c'est pas dit tous les premiers vont être les derniers, ni tous les derniers vont être les premiers. C'est marqué plusieurs qui sont en haut dans les églises ou qui sont bien vus, plusieurs qui pensent être les premiers vont se retrouver les derniers. Plusieurs. Et plusieurs, au contraire, qui sont les derniers. On s'est retrouvé les premiers dans le royaume des cieux. Tout ça, c'est pour dire que le scénario, le tableau actuel qu'on voit, qui est visible à nos yeux humains, va être tout rebrassé. Il va être bien différent dans le royaume des cieux. Très différent. Notre vision des choses est très différente. Donc, ce matin, ce qu'on a vu, c'est deux contrastes. En fait, c'est un contraste. On a vu au tout début les petits-enfants qui avançaient avec joie vers le Seigneur Jésus, les tout-petits-enfants qui spontanément s'en allaient dans les bras de Jésus. Il y avait les bras ouverts, Jésus les appelait, et naturellement, spontanément, avec une attitude ouverte, il allait vers Jésus, il acceptait Jésus. Il acceptait d'être pris dans ses bras, d'être béni par lui, que Jésus les prenne, les sécurise. Et on a vu le jeune homme riche, qui lui était auto, il y avait une auto-évaluation de lui-même qui était assez haute, merci. Et on a vu que dans sa demande, Jésus a fait ressortir que sa richesse l'empêchait d'avoir la vie éternelle. Dans le fond, c'est la première étape des lois qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et on voit que ce jeune homme-là avait placé sa richesse au-dessus de ça. Il a placé sa richesse au-dessus de l'amour de Dieu. Donc, il ne rencontrait pas le premier commandement. Puis probablement que les six autres, au niveau de aimer son prochain comme lui-même, probablement que ça ne fonctionnait pas non plus, à 100%. Donc, deux personnes qui ont fait des choix, les petits-enfants, le jeune homme riche qui a fait un mauvais choix. Fermons nos yeux, et prions. Seigneur Jésus, j'aimerais ça que vous puissiez reprendre la même image que vous aviez tout à l'heure quand je vous ai demandé de vous représenter comme une image, par votre imagination, de vous représenter la figure de Jésus, les yeux ouverts, qui vous regardait, et que dans ses yeux, dans son regard, vous sentiez son amour. J'aimerais que vous puissiez la replacer devant vous, cette image-là. Seigneur Jésus, tes yeux sont sur moi, Seigneur Jésus. Tu me vois, Seigneur Jésus. Et dans tes yeux, Seigneur Jésus, je vois que tu m'aimes. Tu m'aimes comme je suis. Tu m'aimes malgré ce péché que j'ai fait, ce péché que j'ai le confessé tout à l'heure, et ces péchés que plusieurs pourraient confesser si on avait le temps, si on prenait le temps de confesser nos péchés les uns aux autres. Seigneur Jésus, tu me vois et tu m'aimes malgré ce péché-là et malgré un autre péché que j'ai commis hier, que j'ai commis la semaine dernière, le mois passé. Seigneur Jésus, tu me vois. Tu vois mes combats, mes luttes. Tu vois mes victoires. Tu vois mes défaites également. Et tu ne me pioche pas dessus, Seigneur Jésus, parce que j'ai eu une défaite. Tu m'as déjà pardonné cette défaite-là, Seigneur Jésus. Tu me vois et ton amour ne change pas. Ton amour n'est pas fonction
de mes victoires ou de mes échecs. Ton amour est constant envers moi. Tu m'aimes de la même façon que j'agisse bien ou que j'agisse mal. Tu m'aimes quand même. Cet amour me dépasse, Seigneur Jésus. Cet amour me pousse, Seigneur Jésus, à t'aimer davantage, à te connaître davantage. Seigneur Jésus, je ne veux pas faire des choses pour toi, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur Jésus, que tu viennes en moi, que tu sois en moi et que tu fasses les choses à ma place, Seigneur Jésus. C'est toi qui as toute la puissance. C'est toi qui es capable de déplacer des montagnes. C'est toi qui es capable de prendre un mort et de le ressusciter. Seigneur, tu es capable de tout. Seigneur Jésus, viens en moi. Vis en moi, Seigneur Jésus. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as la puissance. Je te fais confiance. Vis en moi, Seigneur Jésus. Et je dépose à tes pieds, Seigneur Jésus, ces fardeaux. Je les mets à tes pieds, Seigneur Jésus, et je sais que tu t'en occupes, que même que tu t'en préoccupes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de tellement m'aimer, Seigneur Jésus. Amen.